Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des programmes en français de Radio Prague. Alexis Rosenzweig au micro pour les informations. Et on commence ce bulletin avec la fin du conflit entre le chef du gouvernement Jiří Paroubek et le président de la République Václav Klaus au sujet de la politique étrangère du pays. Après leur rencontre de ce mardi au château de Prague, les deux hommes, l'un pro-européen, l'autre farouche opposant à une intégration approfondie de l'UE, auraient décidé de se concerter et de coordonner leur action lors de leur déplacement à l'étranger. L'une des plus grandes usines d'Europe centrale, celle des constructeurs Toyota et Peugeot Citroën, réunie sous le nom de TPCA, a commencé sa production ce lundi à Kolín, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Prague. L'investissement pour la production des trois différents petits véhicules, la Toyota Aygo, la Peugeot 107 et la Citroën C1, représente plus d'un milliard d'euros et TPCA devrait à terme employer 3000 personnes sur le site de Kolín. Le vice-premier ministre tchèque Martin Jan a déclaré que le démarrage de la production de TPCA sera l'un des principaux facteurs grâce auxquels la croissance du PIB tchèque dépassera la barre des 4%. Le salaire mensuel moyen brut en République tchèque a progressé de 5,8% à 17 678 couronnes, environ 580 euros, au premier trimestre 2005 par rapport au janvier-mars 2004, selon des chiffres publiés mardi à Prague par le Bureau des statistiques. Le niveau moyen des salaires versés dans les firmes privées, 583,6 euros, dépasse légèrement celui dans le secteur public à 570 euros. La probabilité que le pianiste amnésique surnommé Pianoman, trouvé en avril dernier sur les côtes anglaises, serait un tchèque nommé Tomáš Strnad, a été renforcée aujourd'hui par la publication de l'une de ses photos d'enfance dans un tabloïd pragois. Pour le quotidien populaire Blesk, en effet, cela ne fait plus de doute. Sur une vieille photo de classe, Tomáš Strnad, âgé d'une dizaine d'années, ressemble de manière frappante au pianoman aperçu sur les rares clichés publiés jusqu'ici. Le mystérieux pianiste a été découvert le 7 avril en Grande-Bretagne, en costume sombre et une cravate dégoulinant d'eau. Il n'a pas parlé depuis, et il a été pour la première fois identifié comme Tomáš Strnad par deux musiciens tchèques. Le milieu de terrain international tchèque d'Udinese, Marek Jankulovski, portera la saison prochaine les couleurs du Milan AC, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Le joueur de 28 ans a signé un contrat qui le liera au club de Silvio Berlusconi jusqu'au 30 juin 2009. On termine ce bulletin avec la météo, une météo qui reste stable en République tchèque. Le ciel devrait rester en partie dégagé mercredi et les températures ne dépasseront pas 20 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, Alain Slivinski pour votre rubrique DX.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Les premiers ministres luxembourgeois et tchèques se sont rencontrés à Luxembourg. L'affaire du prince du Qatar défraie la chronique tchèque. La semaine du développement durable se poursuit à Prague. Le ministère tchèque de la Défense rend accessible une partie des documents des services de contre-espionnage. La municipalité de Prague procède à une importante augmentation des tarifs des transports urbains. Le 9e Festival international du théâtre de marionnettes a commencé à Prague. Tels sont les thèmes qui figurent au menu de cette émission, préparée par l'ensemble de la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. Le premier ministre luxembourgeois et président en exercice du Conseil européen, Jean-Claude Juncker, a reçu lundi au château de Senningen, près de Luxembourg-Ville, son homologue tchèque Jiří Paroubek. Jean-Claude Juncker a ainsi entamé une série de rencontres avec tous les dirigeants européens intitulées « Les capitales en tournée » et visant à peaufiner la préparation du budget de l'Union européenne pour la période de 2007-2013. Magdalena Segertova a suivi le débat sur place dans la capitale du Grand-Duché.
En ce qui concerne l'adoption du budget européen, le chef du cabinet tchèque Jiří Paroubek reste optimiste, et ce en dépit du non français au traité constitutionnel. Il espère qu'un accord des 25 sera trouvé avant le prochain sommet de l'Union des 16-17 juin.
Il est dans les intérêts des pays européens de se mettre d'accord sur le budget. Une discorde aurait des répercussions fatales. D'après ce que j'ai vu, la présidence luxembourgeoise prend les négociations précédant le Conseil européen très au sérieux. Monsieur Juncker est l'un des dirigeants européens les plus expérimentés. Il sait faire des compromis et aussi adopter une position ferme. Évidemment, les choses peuvent encore se compliquer. Il faudra par exemple résoudre la question du rabais dont bénéficie la Grande-Bretagne et auquel la République tchèque, comme je l'ai dit à Monsieur Juncker, est opposée. Personnellement, j'ai toute ma confiance en le Luxembourg et ce n'est pas un optimisme obligatoire.
En En effet, si la stratégie budgétaire des Luxembourgeois est plutôt perçue d'un bon œil à Prague, c'est aussi parce que les subventions des fonds européens dans les pays moins fortunés de l'Union pourraient profiter ne risquent pas d'être réduites. D'où d'ailleurs l'intérêt pour la République tchèque de soutenir l'Europe et sa constitution, estime le Premier ministre Paroubek en faisant une comparaison entre Paris et Prague.
Je crois que le rejet français de la Constitution est le résultat de plusieurs facteurs, liés surtout à la politique intérieure de la France qui ont favorisé le non. J'espère que chez nous il n'en sera pas ainsi. L'appartenance à l'Europe est un avantage pour nous. Les chiffres sont parlants. Nous aurions droit, d'après le projet dont nous discutons, à des subventions allant de 3,6 à 4% du produit intérieur brut, c'est-à-dire à plus de 100 milliards de couronnes par an, avec un plafond de dépenses de 30 milliards de couronnes. L'Europe aurait du mal à comprendre si nous nous opposions à la Constitution, puisque nous nous priverions en même temps de cette aide financière au développement de notre économie et de notre société.
Jiří Paroubek. Contrairement au Parti civique démocrate, ODS, en tête de l'opposition, et au président de la République, Václav Klaus, le Premier ministre insiste sur la nécessité de poursuivre le processus de ratification du traité européen. Il a souligné à plusieurs reprises que, d'après la législation actuelle, ce n'est qu'au bout de 2 ans et après avoir connu les positions de tous les pays membres que le Conseil européen pourra décider de l'avenir du texte fondamental de l'Europe unie. Comment la victoire du non français a-t-elle été perçue au Grand-Duché, l'actuel fief de l'Union? La réponse d'un jeune luxembourgeois d'origine tchèque, Jakub Doležal.
Alors les luxembourgeois qui sont juste à côté de la France ont évidemment suivi toute la campagne. C'était un grand débat ici au Luxembourg aussi, parce que nous avons notre référendum le 10 juillet, donc dans pas très longtemps. Et En fait, ici au Luxembourg, qui est un pays très pro-européen, je pense que personne ne croyait vraiment que cela pourrait faire un non. Mais bon, avec les sondages qui montaient de plus en plus, le référendum français qui se rapprochait, on commençait à se douter. Et depuis dimanche, maintenant, la réponse non. Je pense que les gens sont d'abord surpris. Et il y a une grande incertitude qui commence chez nous également. Comment va se passer notre propre référendum, comment va être le futur de l'Europe. Et voilà, je pense qu'il y a une période d'incertitude qui vient de commencer.
Le tribunal de Prague a condamné à 2 ans et demi de prison le prince du Qatar, Ahmad bin Abdullah Al Thani, pour avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes filles mineures. Son procès est devenu étroitement suivi, puisqu'il a déclenché un conflit entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. L'avocat du prince veut porter plainte devant la Cour constitutionnelle. Yerka Gisiblova.
2 ans et demi de prison ferme pour le prince du Qatar, proche de l'ancien émir, qui dans son appartement pragois eut des relations sexuelles avec 16 filles mineures, dont 4 âgées entre 12 et 15 ans. Tel est le verdict rendu par la juge Monika Krzykavova en dépit d'une forte opposition du ministre de la Justice, Pavel Niemetz. Ce dernier voulait que le prince soit extradé pour être jugé au Qatar. La juge a cependant résolument refusé. Le seul organe qui a le droit de décider, c'est le tribunal. Le ministère n'a aucune compétence en matière de décision, a-t-elle déclaré en qualifiant la lettre avec laquelle le ministre accompagnait la demande du Qatar d'extrader le prince d'intervention sans précédent du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Il s'agit là d'une pression qui en 2005 est inadmissible et le tribunal ne s'y soumettra pas, a-t-elle souligné. En même temps, la juge a décidé que le prince pourrait être extradé au Qatar après 30 mois de prison purgée en Tchéquie. Le verdict n'est toutefois pas valide puisque l'avocat du prince, Josef Lžičáš, s'est pourvu en appel. Il veut porter plainte contre le travail des tribunaux tchèques devant la Cour constitutionnelle et la Cour supérieure.
Postoj obvodního soudu pro Prahu 2 byl znám od...
La position du tribunal du 2e arrondissement de Prague était connue dès le début même du procès. Je suppose que l'appel interjeté au tribunal municipal ne changera rien à l'état des choses, indiquait ironiquement l'avocat qui, si l'on sait dire, s'attendait à ce que le verdict soit tel qu'il est. Nous rappellerons encore que l'affaire n'a pas laissé indifférent le procureur général de la République, Madame Marie Benešová. Fort inquiète du comportement du ministre de la Justice, elle a donné l'ordre à la police anticorruption de vérifier les circonstances de sa prise de décision en faveur de l'extradition du prince au Qatar.
Une journée porte ouverte était organisée ce mardi à Prague, au département pour l'accès aux documents du ministère de la Défense, le bâtiment dans lequel sont archivés les documents des anciens services militaires de contre-espionnage, est resté ouvert au public toute la journée. Jusqu'en novembre 1989 et la chute du régime communiste, les services de contre-espionnage ont fait partie de la fameuse Státní bezpečnost, STB, ou Sécurité d'État, les services de renseignement et de sécurité de l'ancienne police secrète tchécoslovaque.
C'était la première fois depuis sa création en septembre 2002 que le département pour l'accès aux documents organisait une telle manifestation. La mission principale de cette administration est d'archiver les différents dossiers et éléments se rapportant aux activités des services de contre-espionnage et de les rendre accessibles à la population. Tout cela afin que la lumière soit faite sur les méthodes employées par la police secrète en matière de répression des droits politiques et des libertés entre le coup d'État du Parti communiste en 1948 et la révolution de velours en 1989. Directrice adjointe du département Itka Porova explique ce que les 150 à 200 visiteurs ont pu découvrir au cours de cette journée portes ouvertes.
Nous proposons une visite classique de nos différents bureaux. Nous présentons également nos structures et nos activités et faisons une démonstration du traitement technique des documents, comment ces documents sont traités justement pour les rendre accessibles au public. La mission de notre service consiste en effet à enregistrer les demandes d'accès aux documents créés par les anciens services de contre-espionnage. Puis, une fois que nous avons retrouvé ce document, s'il existe, il est rendu accessible. Ensuite, les visiteurs ont la possibilité de retirer des listes d'agents et de collaborateurs des anciens services militaires de contre-espionnage que nous avons publiés et sont à la disposition du public. Et bien entendu, tous les visiteurs ont la possibilité de déposer une demande pour accéder au document.
D'ores et déjà, le ministère de la Défense a annoncé qu'en cas d'intérêt manifeste du public, de nouvelles initiatives type porte ouverte seraient organisées à l'avenir.
Ces choses faites, après de longues hésitations, la mairie de la capitale tchèque Prague vient de décider de l'augmentation des prix des transports en commun, cela à partir du 1er juillet. Les raisons et les réactions à cette mesure qui est loin d'être populaire, Alan Slivinski.
Prendre le métro, le bus ou le tramway revient plus cher aux usagers et aux touristes à partir du 1er juillet. Les plus touchés seront les voyageurs occasionnels, ceux qui n'utilisent pas les éventuelles réductions, cartes ou abonnements. Le ticket de métro, simple, mais qui donne accès aux changements pendant une période limitée selon les jours de la semaine et les heures de la journée, passe de 12 à 20 couronnes. Le ticket valable 15 minutes ne permettant aucun changement augmente de 8 à 14 couronnes. En ce qui concerne les diverses cartes, au mois, au trimestre, au semestre, pour les touristes, la mairie a décidé d'une augmentation de 10% en moyenne. Pourquoi ces augmentations, alors que les routes de la capitale tchèque sont déjà saturées par la circulation automobile et que cette mesure pourrait conduire à une nouvelle augmentation du trafic routier? Selon le directeur de la Société des transports en commun pragois, Tomáš Tilek, augmenter le prix du transport urbain à Prague s'est avéré comme nécessaire en raison de l'augmentation des coûts des transports. L'augmentation des frais que doit supporter la Société des transports en commun pragois concerne surtout les salaires des employés, les prix des carburants, les prix des services. Ce sont des frais qui augmentent indépendamment de la volonté de la société, sans pour cela que la société ait, depuis des années, augmenté ses tarifs. Jusqu'ici, la hausse des frais de la société a été couverte par les économies effectuées par celle-ci. Ce n'est plus possible actuellement. Tous les conseillers municipaux ne sont pas d'accord avec l'augmentation des prix des transports en commun. Mikhail Rivich-Diala, indépendant, serait même pour la gratuité des transports en commun dans la capitale tchèque. D'après lui, l'augmentation du prix du ticket à partir du 1er juillet ne conduira seulement qu'à une augmentation du nombre de véhicules automobiles dans les rues de Prague, déjà saturées, ce qui conduira donc à une plus grande pollution de l'air pragois. Vish Diala, comme d'autres personnes qui ne pensent pas seulement aux gains de la société des transports en commun, appelle à une meilleure gestion de celle-ci, à un contrôle plus sévère de son économie, afin que les trams, les autobus, ne roulent pas à moitié vide alors que les routes sont pleines de bouchons, afin que l'utilisation des transports en commun devienne plus rentable que la voiture individuelle, transportant même plusieurs passagers, ceci étant toujours assez rare en semaine.
Le 9e Festival mondial du théâtre des marionnettes a commencé lundi dans la capitale tchèque. La majorité des manifestations du festival sont présentées à l'Institut international de l'art de la marionnette, rue Karlova. Certains spectacles étant donnés dans 3 autres théâtres situés dans le centre de Prague. Plus de précisions avec Andrea Lhotakova de l'Institut international de l'art de la marionnette.
Světový festival tkářské umění má již velkou tradici, letošní rok je již 9.
Le Festival mondial du théâtre des marionnettes a une longue tradition. C'est déjà la 9e édition de ce festival qui est destiné non seulement aux enfants, mais aussi aux adultes. C'est en cela qu'il est un peu exceptionnel, parce que souvent les marionnettes sont considérées comme un art pour les enfants. Cette fois-ci, nous avons donc également des représentations pour adultes.
Y participent des troupes du monde entier, plus précisément de 15 pays. Cette année, il y a beaucoup d'ensembles d'Asie, notamment des troupes d'Iran, de Turquie, de Taïwan, d'Inde et d'Indonésie. Selon quels critères la direction a-t-elle choisi les participants? Réponse d'Andrea Lhotakova.
Nous voulons surtout que la mosaïque des ensembles participants soit la plus intéressante et la plus variée. C'est pourquoi nous réservons un certain espace aux troupes traditionnelles, dont par exemple le théâtre d'ombre japonais, mais nous n'oublions pas non plus le théâtre populaire ou les contes de fées, etc. 2 troupes représentent au Festival de la République tchèque, le théâtre noir national, donc l'ensemble qui fait partie de l'établissement qui organise le festival, y présente un spectacle intitulé Odysseus, Ulysse, qui marie la marionnette et la pantomime. Nous avons invité aussi le théâtre des marionnettes d'Ostrava, dont le spectacle est intéressant parce qu'il a été créé en coproduction tchéco-japonaise. Il s'agit de 4 petits spectacles sur les loups, basés, ce qui est intéressant, sur des contes tchèques et japonais.
Ce dernier spectacle est aussi une confrontation entre 2 attitudes bien différentes vis-à-vis des loups. Tandis que dans les contes tchèques, le loup est une bête méchante et sanguinaire, dans les contes japonais, il est souvent un animal sage, capable de découvrir et de juger de la méchanceté ou de la bonté de l'homme. Le théâtre des marionnettes évolue très rapidement. Marionnettes, moyens scéniques, formes d'expressions artistiques, tout change avec une rapidité vertigineuse. Ces tendances se reflèteront au festival grâce, entre autres, au Kranevit Theater de Berlin. La troupe allemande proposera ce jeudi au public pragois un spectacle intitulé Jorinde Joringel, une sorte de théâtre alternatif qui est une fusion de plusieurs formes d'expression théâtrale. C'était Fais événement, une émission d'actualité de Radio Prague. Merci de l'avoir suivi.
Le Grand Concours 2005 de Radio Prague. Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question « La bière tchèque, qu'est-ce que cela évoque pour vous ?» Vous pouvez envoyer vos réponses jusqu'au 15 juin au plus tard à notre adresse postale Radio Prague, Vinohradská 12, 120 99, Prague 2, République tchèque. Vous pouvez aussi utiliser le courriel à l'adresse cr@radio.cz. Le premier prix est un séjour d'une semaine en République tchèque pour 2 personnes. Les auteurs des autres meilleures réponses seront récompensés par des prix de valeur et leurs noms seront cités sur notre site web. Le séjour d'une semaine est gracieusement offert par l'hôtel Falkensteiner Maria Prague, dans une atmosphère familiale de style, en plein centre de Prague. Les billets d'avion sont offerts par les lignes aériennes tchèques, votre partenaire, lors de vos voyages en République tchèque.
73 de Radio Prague. Alain Slivinski.
Alain Slivinski est heureux de vous accueillir à l'écoute de l'émission destinée aux radio-écouteurs, à tous les amateurs des ondes courtes et de l'écoute des émissions internationales. Le micro est aujourd'hui à Roland Paget du Club Amitié Radio de Créteil.
Chers amis de Radio Prague, bonjour. Nous voici donc quelques minutes ensemble. Après un mois de mai, il y a eu quelques petits soucis en ce qui concerne la programmation et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Nous allons donc bien rapidement passer à un petit tour d'horizon de l'actualité de la radio. Tout d'abord, la Commission européenne de l'Union européenne a demandé aux États membres de l'Union de se charger de mettre en place la numérisation de toute la radiodiffusion et de la télévision dans leur pays, donc a demandé aux autorités, et puis également tous les canaux qui peuvent diffuser certains types d'informations et qui devraient le faire en numérique. Le délai pour pouvoir réaliser ces opérations, ces transformations, que ce soit pour les opérateurs publics ou privés, est de 2012, en espérant qu'en 2010, ce changement sera donc planifié. Ce qui voudrait dire que pour la radiodiffusion internationale, tous les pays membres à aujourd'hui ou futurs membres de l'Union européenne devraient donc se mettre au numérique. C'est une bonne nouvelle, je dirais, pour les écouteurs et pour les auditeurs des radios internationales, puisque déjà tous les pays membres ou futurs membres de l'Union européenne devront donc diffuser toutes leurs émissions en numérique. En ce qui concerne la radiodiffusion internationale en ondes courtes, devront-elles aussi diffuser tout en numérique? Car en effet, en ce qui concerne les autres pays, pour l'écoute, le numérique ne sera pas imposé de fait. Mais il est vrai que d'ici là, les récepteurs portables seront fortement disponibles et à des coûts équivalents aux coûts de nos récepteurs actuels. Donc une investigation, je dirais, un engagement de l'Union européenne dans le domaine de la numérisation, ce qui est, comme je le disais tout à l'heure, une bonne nouvelle, puisque en effet, cela permettra aux opérateurs et obligera, je dirais, à passer au numérique, donc d'offrir aux auditeurs une meilleure qualité pour les programmes. Nos amis slovaques sont toujours dans l'attente de leur avenir. Un débat à la mi-mai au Parlement devait discuter de l'avenir du financement de Radio Slovaquie Internationale. Le directeur général de la Radio Nationale Slovaque, dont dépend le financement, a promis qu'il adopterait, s'il y avait un financement suffisant pour la Radio Nationale, d'allouer un budget spécifique pour Radio Slovaquie Internationale. Bien entendu, nous suivons toujours ce dossier et cette actualité pour nos amis slovaques et pour tous les auditeurs qui écoutent les émissions de Radio Slovaquie Internationale. Le travail de journaliste, de producteur, de responsable de radio, qu'elle soit nationale ou internationale, est un travail à risque. En effet, malheureusement encore très souvent, et l'actualité le démontre presque quotidiennement, dans certains pays, le travail est difficile, je dirais même risqué, puisque malheureusement, un certain nombre de journalistes chaque année décèdent, ou de responsables dans le cadre de leur activité professionnelle, ou sont condamnés à des peines de prison, que ce soit avec sursis, ou malheureusement, dans beaucoup de cas, avec un emprisonnement ferme et dans des conditions parfois difficiles, puisque souvent ces personnes sont considérées indésirables ou faisant une propagande contre certains intérêts. Eh bien, aujourd'hui, il y a une station dont les responsables ont été condamnés à une petite peine de prison avec sursis, mais pour un motif différent, pour pollution électromagnétique. Nous vous en avions déjà parlé, en effet, le cardinal Roberto Tucci, le président de Radio Vatican, et le père Pasquale Borgomeo, son directeur général, ont été réciproquement condamnés le 9 mai dernier à 10 jours de prison avec sursis pour pollution électromagnétique. En effet, depuis 2001, la justice avait été saisie par les habitants d'un petit village environnant le centre émetteur de Radio Vatican pour pollution électromagnétique et des champs magnétiques trop puissants par rapport aux normes européennes. Et la justice a donc donné raison aux habitants en condamnant les responsables de Radio Vatican et bien entendu en demandant à ce que les pollutions soient réduites. Et c'est d'ailleurs pour cela que depuis quelque temps, Radio Vatican commence à utiliser des relais de proximité pour certaines zones afin de respecter les engagements et les décisions de justice. Donc vous voyez, le travail de responsable d'une station de radio internationale n'est pas toujours aussi évident. Voilà pour ce bref tour d'horizon de l'actualité. Je vais repasser le micro à nos amis de Prague. Je vous souhaite mes meilleures salutations radiophoniques et rendez-vous à très bientôt.
Le 73 de Radio Prague, c'est maintenant terminé. C'est la fin aussi des émissions en langue française de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.